when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Cordialement, Zoé. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis avec Fabienne, qui est gynécologue et qui a beaucoup œuvré pour ses patientes tout au long de sa carrière. Elle aide les femmes dans tous les cycles de leur vie et elle a un parcours très inspirant malgré les épreuves qu'elle a dû traverser. C'est un sujet que je suis ravie d'aborder dans le podcast parce qu'en tant que femme, prendre soin de sa santé intime, c'est très important et il y a souvent beaucoup de tabous sur la gynécologie. Et aujourd'hui, Fabienne n'est pas seule, elle est avec Romane, sa fille, et on va avoir un échange sur tout ça, donc bienvenue à vous deux, quoi.
Merci déjà Zoé de nous avoir conviés. Moi je suis ravie de venir parler de ma spécialité, de ma profession de médecin. Donc je suis Fabienne et je suis gynécologue dans une clinique à Nantes qui est une belle maternité puisqu'on est quand même 18 médecins accoucheurs. Donc en fait on a vraiment une structure pour bien prendre en charge les femmes du début à la fin.
Et Romane, toi du coup ?
Et moi du coup, je suis Romane, sa fille, j'ai 20 ans et j'accompagne ma maman dans ce podcast parce que je suis très fière d'elle et de son parcours.
Trop bien. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Fabienne, est-ce que c'est important de faire une première consultation gynécologique ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en général qui sont jeunes, des filles, qui ont peur, qui se disent ah, c'est stressant, directement on va y avoir des examens, machin. Et du coup, c'est vrai que les gens le repoussent un petit peu, mais est-ce que c'est important et pourquoi faut le faire ?
Oui, alors là, c'est vraiment une bonne question parce que je pense que c'est hyper important, cette première consultation gynécologique et qu'il faut la faire dans un climat de confiance surtout. Alors, il y a beaucoup de jeunes, je sais, qui ne viennent pas consulter par peur d'être jugée si elle demande quelque chose, qu'elle n'ose déjà pas demander à leur maman, donc à un médecin inconnu, c'est compliqué. Par peur surtout de se faire examiner, d'avoir mal, surtout si elles ont demandé soit à leur maman, soit à des copines ou aux grandes sœurs. Alors il y a toujours des descriptions qui peuvent être interprétées et qui du coup font peur. Alors là, moi, si j'ai, grâce à toi Zoé, un message à faire passer, il ne faut vraiment pas avoir peur. La gynécologue est vraiment, surtout si on est une femme, je pense qu'on doit être l'amie et l'alliée de toute femme, quel que soit leur âge. Et il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être examinée, surtout tout au début. On est tout à fait en droit de demander une consultation avec un échange, une discussion, et dire « je ne suis pas prête pour me faire examiner ». Et ça, quel que soit l'âge, même une personne adulte, il y a des jours, elle va me dire « je ne veux pas que vous m'examiniez ». Et je pense qu'il faut vraiment respecter ça. Et quand on a eu plusieurs consultations où un climat de confiance s'est établi, eh bien en fait la personne spontanément va dire « bon ben là je me sens prête ». Et puis voilà, puis on le fait tranquillement au bon moment.
Oui, parce que la première fois qu'on va chez une gynécologue, c'est pour parler, parce qu'on se pose des questions, pour parler un peu de ce que c'est de grandir en tant que femme, et pas forcément parce qu'il y a un problème et qu'il y a un problème à régler. Il ne faut pas attendre le problème pour y aller, en fait.
Mais oui, et puis alors nous, en tant que gynécologue, on accompagne la femme tout au long de sa vie. Hein. Ça commence avec l'arrivée des règles, au moment de la puberté, qui est quand même un tsunami dans notre vie, quand même, il faut l'avouer. Il y a l'arrivée des règles, il y a les troubles des règles, on n'a pas de règles, on a mal, on n'a pas mal, enfin, on ne comprend pas très très bien le changement de notre corps. Et il y a aussi la contraception, l'inquiétude des premiers rapports sexuels. Donc si il y a des choses à qui on peut demander en toute confiance à une gynécologue qu'on n'ose pas demander à sa maman, on va voir sur les réseaux, mais bon, est-ce que c'est pour nous ce que j'entends, ce que je lis? Donc là, quand on a un climat de confiance, je pense qu'on peut poser toutes les questions. Puis après, on accompagne les femmes pour un désir de grossesse, on accompagne les femmes dans leur grossesse, en cas de maladie, pour les jeunes, les maladies sexuellement transmissibles, on peut faire passer beaucoup de messages sur la prévention. Et puis voilà, les désirs d'enfant, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas? Et ouais, puis toi, aussi toutes les maladies, hein, des maladies parfois bénignes, hein, comme des kystes de l'ovaire, des problèmes de saignement, mais des maladies parfois plus graves comme des cancers. Hein. Et puis après, ben, les femmes seniors, je trouve ça très, très sympa. La femme senior de notre époque, elle est tonique, dynamique, elle veut bien vivre, elle veut être bien dans son corps et elle veut faire de la prévention pour avoir une qualité de vie. Donc on accompagne vraiment les femmes du début jusqu'à la fin, si je peux dire.
Ouais, c'est ça en fait.
Et donc c'est trop sympa. Donc avoir une première consultation de gynécologie et créer ses liens tout au long de sa vie, c'est vraiment un gros plus. C'est comme un médecin généraliste, un peu comme on avait avant, qui vous connaît par cœur, qui rentre dans votre intimité, qui vous parle, qui vous conseille.
J'avais beaucoup de copines qui avaient très peur forcément d'aller chez un gynécologue, etc. Et c'est vrai que, alors ça c'est encore différent, mais souvent quand elles venaient à la maison, quand il y avait une question, elle la posait à maman. Bon, des fois un peu de manière détournée quand on était plus jeune. Et puis au final, aujourd'hui, elle lui pose des questions.
Il faut être disponible.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis elle est très présente. Même, je sais, j'ai des copines, elles ont déjà eu des petites peurs qu'elles n'osaient pas forcément dire à leurs parents parce que peut-être que les parents ne sont pas dans le domaine médical ou juste s'y connaissent pas très bien. Et c'est vrai que maman, elle a toujours été assez... très présente, même pour elles qui ne sont pas ses patientes à proprement parler. Mais elle a créé ce climat de confiance qui fait que j'ai des copines, je pense qu'elles appellent plus ma maman que moi. Mais bon.
Mais c'est rassurant en vrai, parce que quand il arrive un truc qu'on ne comprend pas trop, nous on peut tout de suite se dire, et surtout en regardant sur internet, oh là là, j'ai un truc hyper grave, je vais mourir dans 2 jours et quoi. Et en fait, juste en allant chez quelqu'un qui a les clés et qui a les réponses, on se rend compte que non, c'est pas grave. Des fois, il suffit juste de parler de quelque chose pour résoudre un problème ou alors de prendre peut-être un petit médicament, un petit truc et c'est réglé, quoi.
Tout à fait. Donc, tout peut être vite résolu et ça évite les grosses angoisses, en fait, les inquiétudes.
Ouais. Et toi, c'est quoi, du coup, ton parcours? Pourquoi t'as commencé à faire de la gynéco? Pourquoi c'est ça qui t'intéressait?
Alors déjà, mon parcours, déjà à l'âge de 15 ans, j'avais déjà envie de soigner un peu, d'être proche de... alors que je suis issue d'un milieu non médical, complètement. Hein, okay. Donc voilà. Donc à 15 ans, je me suis dit, je vais passer mon diplôme de secouriste, puis je vais aller voir quand même déjà un peu. Donc une fois que j'ai mon diplôme de secouriste, on partait les dimanches sur les compétitions de sport avec les pompiers, tout ça. Puis c'est vrai que des fois, il y a eu des petites fractures, des petites choses comme ça. Et là, je me disais, ça me plaît vraiment et tout. Si bien qu'arrivée en fin de première, je me suis dit quand même, je ferais bien peut-être une profession médicale. Et il faut quand même que je sache ce que je vais faire. Donc, je suis allée dans l'hôpital de ma ville et j'ai été frappée à la porte. Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien venir passer un mois dans un des services parce que, ça me plairait bien. Donc, je suis allée comme ça. Puis, à l'époque, à mon époque, on n'est pas vraiment de stage. J'étais hyper accueillie. Puis là, ils m'ont dit, écoute, on va te mettre à la maternité parce que, tu vois, c'est des femmes, des bébés, ce sera peut-être moins choquant pour toi, quoi.
Okay.
Et donc, j'ai passé un mois là. Et là, j'ai dit, non, c'est ça. C'est trop
tard. T'as découvert, tu dis, c'est mon truc.
Voilà. Donc, j'ai fait mes études de médecine et puis après, j'ai préparé ma spécialité de gynécologue et de médecin accoucheur. Et voilà. Et puis là, on commence à prendre le rythme des gardes d'accouchement.
Parce que tu as commencé à l'hôpital en premier ?
On se forme toujours à l'hôpital.
Ouais,
on fait d'abord de la médecine générale. Après, on s'oriente vers une spécialité par les concours d'internat. Et après, on devient interne. Et puis, on apprend notre métier de spécialité un peu plus approfondi, notamment les accouchements.
D'accord. Donc,
voilà. Et d'ailleurs, j'en ai gardé une anecdote. C'est que dans l'hôpital où j'ai été, le premier hôpital, les gardes, les chambres de garde étaient au-dessus des salles d'accouchement.
Ah, ok. Donc, ça a dû faire...
Et c'était une maternité où j'étais, il n'y avait pas de péridurale la nuit. Hein, donc, c'était quand même il y a quelques années et on n'avait que la journée. Si bien que la nuit, on ne dormait pas trop parce qu'on entendait les femmes qui avaient mal, qui criaient, les sages-femmes qui disaient « Allez-y, poussez ». Et puis, on ne dormait pas du tout. Et puis, on était heureux quand on entendait le cri du bébé.
Ah ouais, c'était un peu le
je disais « Ah, ça y est, le bébé est là et tout ». Parce que nous, on venait que s'il y avait un problème, sinon c'était sage. Et donc, du coup, j'ai appris à dormir avec la tête sous un oreiller. Et maintenant, ça paraît toujours bizarre, mais je ne peux pas m'endormir si je n'ai pas la tête
C'est drôle.
Sur ma tête. Et ça date, vous voyez, de mes études d'interne. Alors, voilà.
Et médecin accoucheur, du coup, c'est quoi? C'est s'il se passe quelque chose au moment de l'accouchement,
voilà.
Ça nécessite une intervention?
Alors, quand on est dans les hôpitaux, en fait, ce sont donc les sages-femmes qui font les accouchements et qui font ça très, très bien. Mais elles sont destinées à faire des accouchements normaux, c'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, eh bien, un besoin de conseil, nous sommes là, donc en tant que médecin, donc on est médecin accoucheur. Après, quand on travaille, comme moi, dans une clinique privée, puisque j'ai fait le choix de partir dans une clinique, eh bien, on accouche toutes nos patientes. Hein, donc, du coup...
tu avais avant dans la suivie.
Celle que j'ai suivie, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut être amené à être beaucoup dérangé hein, dans la journée en plein milieu de nos consultations, parce que vite, donc on consulte sur place, hein, bien sûr, et puis on monte un petit escalier pour aller en salle d'accouchement, selon les structures. Et puis, la nuit, le jour, quand j'ai débuté, on était moins nombreuses que maintenant à être des femmes. Donc, il est évident que moi, en tant que femme accoucheuse, j'avais quand même une bonne patientèle de femmes. Hein, Et donc, j'ai vécu des moments très, très très fort, très intime de naissance et de partage. Et j'avoue que même mes nuits de garde, si c'est très fatigant les nuits de garde, on est quand même dans une bulle avec le mari, la femme qui accouche et l'arrivée d'un bébé, ça reste quand même magique. Et moi, je frissonnais toujours avec l'arrivée d'un beau bébé.
Ça doit être incroyable.
C'est vraiment magique,
Et t'as fait ça durant combien de temps, du coup ?
Alors, j'ai fait ça une quinzaine d'années quand même, mais c'est vrai que à un moment, c'était tellement beau et tout. Je donnais beaucoup, mais donc j'étais beaucoup déplacée, des fois une nuit sur deux, les week-ends.
Ah ouais.
Et c'est vrai qu'il y a même un anesthésiste un jour qui m'a dit « Non mais Fabienne, c'est pas possible, là tu fais un vrai métier d'homme, quoi. » Mais c'était plus par le timing. Et c'est vrai qu'après, avec la vie de famille, c'est un peu plus compliqué
même. Ouais.
Et j'étais fatiguée. Donc à un moment, j'ai fait un choix aussi, parce qu'en plus j'avais un désir d'enfant, je n'avais pas d'enfant. Donc les patientes, je leur disais toujours, mais attendez, c'est un événement, il faut bien le vivre. Quand ça n'allait pas bien aussi, je les accompagnais, hein, parce que malheureusement, 9 accouchements sur 10 se passent bien, mais il y en a toujours un sur 10 où le bébé ne va pas bien, etc. Donc il faut qu'on soit présente. Il y a de l'urgence, un peu de stress. Oui, il faut décider très vite, hein, c'est parfois pour sauver un enfant. Et donc après, il faut être présent aussi pour les parents pour expliquer comment ça s'est passé. Il faut toujours faire un petit débriefing, sinon on ne comprend pas trop ce qui vous arrive. Donc tous ces accompagnements. Et puis après, des fois, j'avais des patientes qui me disaient « Oh là là, mais c'était trop bien avec vous. Et vous, vous avez combien d'enfants ?» Et moi, j'étais là « Non, je n'ai pas eu d'enfants. » Et moi, dans ma tête, je me dis « C'est pas grave. Un jour, j'aurai un enfant. » Mais bon, ça ne venait pas. C'était pas évident non plus. Mais voilà, j'ai très bien vécu ça. Ouais, j'ai une très belle période,
Et après, du coup, quand tu as quitté la médecin accoucheuse, qu'est-ce que tu as fait, du coup, en ralentissant le rythme ?
En parallèle, évidemment, je faisais déjà de la chirurgie gynécologique. Hein, quand on est médecin accoucheur, on est souvent chirurgien, donc je faisais de la chirurgie. Et puis, j'avais tout le service de PMA dont je m'occupais, à l'époque, je le dirigeais. Donc, c'est un centre de fécondation in vitro, donc que je prenais beaucoup en charge les problèmes des femmes infertiles et je les accompagnais. Et c'est vrai que c'était un parcours dans lequel je me suis vraiment beaucoup jetée parce que d'abord j'ai plus de temps, plus de disponibilité puisque je faisais plus d'accouchements. Même si au début c'était dur pour moi d'arrêter les accouchements, mais bon, voilà. Et comme moi j'arrivais pas à avoir d'enfants parce que j'avais pas mal de fausses couches à répétition, eh bien c'est vrai que je me suis mise aussi à fond, peut-être pour ça, dans ce projet de faire un beau centre de FIV dans ma clinique.
Donc c'est toi qui as ouvert ce...
Alors on était plusieurs médecins, mais disons au début, oui, j'avais pris en place la mise en place de ce centre et j'ai vraiment beaucoup... beaucoup travaillé avec mes patientes et c'est vrai que je pense que j'ai une belle patientèle en infertilité parce que je pense que je les comprenais complètement, j'avais les mots, parce que quand des femmes, on leur fait des traitements et qu'elles ne sont pas enceintes, on les appelle pour dire « on est désolé, votre test de grossesse est revenu négatif, mais on ne peut pas raccrocher, il faut leur dire « voilà pourquoi, mais vous inquiétez pas, on va rebondir, j'ai d'autres projets pour vous et je vous explique pourquoi et ceci et ceci et cela ». Il faut toujours donner cette note d'espoir. Après, évidemment, un test positif, on est en larmes de chaque côté, mais vous voyez, c'est quand ça ne va pas, quand on ne voit pas d'enfant arriver, et c'est l'énorme angoisse d'être le mot qui est dit, c'est stérile, même si ce n'est pas un joli mot, mais vous voyez, mais je n'aurai jamais d'enfant, et c'est un gouffre pour les femmes. Donc j'avais les mots, parce que je le vivais aussi parallèlement, et je pense que ça a beaucoup contribué dans mon relationnel avec mes patientes, évidemment.
Oui, tu les comprenais, et c'est ça aussi qui faisait peut-être la différence, et qu'elles se sentaient... Oui. comprise vraiment
tout à fait.
Dans tout ça.
Puis elle pouvait m'appeler parce que bah, je comprenais, des fois j'avais expliqué 3 fois comment c'était le traitement, mais elle rappelait de peur de faire une erreur. Mmh. Alors peut-être certains médecins, ça pouvait les agacer, je comprends. Hein. Mais moi je me disais, mais c'est tellement, on a tellement peur de faire la petite note qui fait qu'on ne sera pas enceinte. Quoi. Enfin, mmh. Donc j'étais excessivement présente. Donc,
mais parce que du coup tu faisais... Donc ça, donc PMA. Oui. PMA, c'est quoi les initiales ?
Procréation médicalement assistée. Okay. Donc c'est tout ce qui concerne la prise de médicaments pour améliorer l'ovulation, les inséminations de sperme, soit avec le conjoint, soit avec un sperme de donneur quand il y a besoin, et puis toutes les fécondations in vitro.
D'accord. Mmh. Donc tu faisais ça, et à côté, du coup, tu faisais quand même de la chirurgie.
Je faisais toujours ma chirurgie, j'ai toujours fait.
Ok, donc ça, c'est le truc basique. Ouais, ouais.
Ce que j'ai arrêté, c'est l'obstétrique qui m'a donné un peu de temps pour mieux développer... la fécondation in vitro et les traitements, voilà. Ouais, ouais.
Et t'as un moment qui t'a marqué justement dans cette deuxième un peu partie de ta carrière, quoi. De... Il y en a plein, en fait, j'imagine. Quand tu...
Oui, parce que c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, là, de mettre au monde tant d'enfants et puis ne pas avoir d'enfants soi-même et de ne pas accoucher, ne pas vivre ce que je partageais avec mes patientes. Et puis après, bah, pareil... avoir la joie de voir mes patientes enceintes alors que moi je me soignais et je n'y arrivais pas. Donc c'est vrai que c'est quand même des moments un petit peu particuliers. Et puis par contre pour moi, bah oui, ça a été un petit peu difficile, mais globalement je me disais ça va, j'ai toujours été positive, je sais pas pourquoi, je me disais je sais qu'un jour j'aurai un enfant, mais alors c'était vraiment pas du tout parti pour, mais j'y croyais et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Alors les moments difficiles, bah oui, c'est quand on a dans des parcours une patiente qu'on aide à tout prix pour qu'elle soit enceinte, puis la cliente suivante, la patiente suivante qui vient, qui dit ah ben non, mais moi je veux pas d'enfant, puis je tombe enceinte facilement, puis moi la pilule ça me prend, enfin voilà, donc on est là, on se dit oh là 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 là, donc il y a des passages de consultation, mais on est professionnel, on est humain, on n'est pas dans le jugement, chaque patiente a son histoire, chaque patiente doit être écoutée, chaque patiente doit être guidée dans son parcours, et moi j'étais là pour ça. Mais c'est vrai que des fois on passait d'une consultation c'est à une autre, et c'est, voilà, on s'adapte.
Et pour toi qui n'arrivais pas à avoir d'enfant justement, est-ce que tu le gardais un peu secret ou t'en parlais justement avec tes patientes ou...
Non, je n'en ai jamais parlé.
Tu gardais ça, et est-ce que c'était dur pour toi justement d'aider les gens, d'aussi avoir ton combat à côté et de faire un peu ça, les deux en parallèle, sans mélanger.
Ça a été, en effet, Zoé, ça a été vraiment les deux, parce qu'à la fois, c'est un petit peu dur. Le matin, mon test arrive négatif, ou hop, j'étais enceinte, mais je me mets à saigner. Et en face de moi, j'ai le plaisir d'annoncer une patiente qu'enfin, grâce à mes traitements, elle est enceinte. Bon, alors on se dit, on ne dit pas pourquoi elle et pourquoi pas moi. C'est elle. Trop, trop bien, donc pourquoi pas moi un jour. Enfin, c'était plutôt comme ça que j'essayais de le vivre toujours. Mais bon, c'est pas si rose comme ça. Hein, non. Ouais. Il y a des moments, je disais, ah ben non, mais là, je rêve d'avoir un enfant, je suis sûre que j'en avoir un, mais enfin, non, ça marche pas, quoi. Enfin, donc, il y a eu ces petits moments un petit peu de doute. Et puis, par contre, quand j'ai eu la chance
d'avoir... Romane est là avec nous, quoi.
Ma Romane. Donc là, j'avoue que là, c'est vrai que là, toutes les semaines, je me faisais moi-même, j'ai un appareil d'échographie... Puis je me dis, mais c'est pas vrai que là, cette fois, la grossesse a l'air de te tenir. Donc, toutes les semaines, je regardais le petit cœur qui bat et tout. Et là, c'est vrai que ça a été quand même une histoire incroyable. Et d'ailleurs, j'étais excessivement épanouie pendant ma grossesse. Il y a eu zéro angoisse. Je savais que ça allait être bien. C'était, je veux dire, enfin. Et donc, j'ai vécu ça. Je travaillais jusqu'à 15 jours avant la naissance de Romane parce que j'étais tellement en forme.
Ouais.
Et les patientes, et c'est là que je me suis rendue compte que mes patientes, leur joie, de me savoir enceinte, et même dans le personnel de la maternité où je suis, toutes les sages-femmes, le personnel, etc., c'est là que j'ai compris qu'ils avaient presque une souffrance pour moi de dire, mais quand même, dans mon dos, elle devait dire, mais Fabienne, la pauvre, là, elle fait tellement d'accouchements, elle fait ça, elle est proche de ses patientes, et elle n'en a pas. Et en fait, c'est quand j'ai mis au monde Romane que j'ai accouché, mais il y a eu un témoignage, mais je recevais du matin au soir du monde, et qui me disait, enfin, et c'est là que j'ai compris qu'ils avaient une souffrance, une tristesse pour moi qui m'ont de jamais dit avant. Voilà. Donc ça, c'est des moments très très forts de partage.
Moi, je pense que c'est là aussi, elle a vu à quel point on lui rendait ce qu'elle avait donné depuis tant d'années à tant de personnes, et on lui a rendu fois 1000. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a dû faire un...
Ah oui, c'était le témoignage de mes patientes, ça a été incroyable.
Ça, elle m'en a toujours parlé depuis que je suis petite.
Ah oui, j'ai gardé toutes mes lettres de mes patientes, tellement heureuse.
On les a retrouvées d'ailleurs. Ouais. On en a retrouvé certaines.
Trop chou.
Et comme évidemment, j'ai eu Romane bien après 40 ans, après j'ai développé sans le savoir, sans le chercher, beaucoup de femmes, entre guillemets, âgées pour une FIV, puisqu'en France, c'est jusqu'à l'âge des 43 ans, et beaucoup qui venaient me voir en disant, mais si elle a réussi pour elle, doit être bien. Donc en fait, après, j'ai beaucoup développé une population de femmes en désir d'enfant de plus de 40 ans.
Et ça dure combien de temps, justement, le parcours de PMA, c'est... on ne sait pas ou...
Moi, je sais souvent. Quand je vois les résultats d'examen, je sais si on va mettre un an. En dessous d'un an, c'est compliqué. Mais parfois, je dis, bon, ça va être un peu compliqué. Ça peut durer plusieurs années. Puis après, j'ai eu, dans les années 2000, donc vous voyez, ça remonte comme il y a 24 ans, j'ai voulu développer aussi le don d'ovocytes. Alors là, maintenant, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus en France et j'ai beaucoup œuvré pour que ça soit accepté en France à l'époque parce que j'avais créé un réseau qui s'appelait FIV France. Donc j'étais le premier site sur Internet de FIV avec le biologiste Monsieur Plouchard. Et vraiment, on a fait ce site et donc du coup, j'ai eu beaucoup de questions.
FIV, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi?
Alors, fécondation in vitro. Voilà. Okay. Et donc, on était le site FIV France. Donc là, on avait ce qu'on appelle le chat maintenant. Mais bon, on avait beaucoup de questions. Je répondais. Enfin, on y passait un petit moment. Et c'est vrai que du coup, j'ai essayé d'œuvrer pour faire venir le don d'ovocytes. Et donc, je suis partie à l'époque à Barcelone dans une clinique en Espagne où là, le don d'ovocytes pouvait se faire plus facilement. Et j'ai été travailler une semaine pour voir comment ils travaillaient et de manière à pouvoir y convier mes patientes. Et à l'époque, c'est vrai que pas beaucoup de médecins m'envoyaient à l'étranger. Et là, je leur donnais des adresses, des noms. Et c'est vrai que ça a été un parcours aussi d'accompagnement, de discours avec les politiques pour que ça soit intégré en France. Mais bon, c'était un petit peu long, mais enfin, c'est passé.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
C'est quoi qui t'a fait que tu t'es autant dédié à la vie des femmes, autant dédié à tes patientes? Parce que c'est vraiment une étape dans leur vie qui est incroyable. C'est pas juste t'achètes une nouvelle robe, enfin avoir un enfant et même tout le parcours gynéco, c'est au centre de la vie des femmes. Et toi, t'étais vraiment un peu leur guide, on va dire.
Oui, tout à fait.
Et t'en avais pas qu'une. Donc en fait, c'est quoi dans ta tête qui te motivait et qui te rendait heureuse?
Alors moi, ce qui me rendait heureuse, c'est parce que, ce qu'a dit un peu Romane, je donnais, mais je recevais aussi. Donc, si vous voulez, quand on a un échange comme ça, on a encore envie de continuer de donner. Moi, je me disais quand même qu'avoir un enfant, en tant que médecin accoucheur, je ne peux pas dire autre chose, mais je pense que c'est quand même l'apothéose dans la vie d'une femme. Vraiment, c'est un émerveillement de se dire qu'on a créé un bébé dans son ventre et de le mettre au monde. Donc, j'avais envie que chaque femme vivent cela comme un événement. Et d'autant plus à notre époque, puisque maintenant, on a de la contraception. Donc finalement, quand on est enceinte relativement, c'est quand on a un peu décidé, quand on est stable dans une vie, etc. Donc maintenant, l'enfant n'est plus la forme, pas toujours, enfin, le plus souvent, l'enfant a été vraiment très désiré. Donc du coup, je pense qu'il faut bien guider, bien accompagner, parce qu'on s'imagine aussi que tout va bien se passer, puisque maintenant on est bien surveillé, bien suivi. Donc il faut aussi dire que parfois, c'est pas toujours parfait, et il faut qu'on soit le guide. Et je prenais ce rôle-là de manière très importante. Moi, je disais, une femme ne va pas accoucher 15 fois dans sa vie, à notre époque. Donc, c'est un événement d'exception. Il faut essayer de tout faire pour que ce soit un bon moment. Et du coup, j'essayais de le faire dans ce sens. Mais du coup, comme ça se faisait dans ce sens-là, le plus souvent, ça me redonnait encore envie de le refaire.
Des fois, tu avais des patientes que tu connaissais jeunes. Et après, tu les voyais tous les ans, avoir des étapes différentes dans leur vie.
Oui, j'en ai toujours. Et depuis que je suis installée, j'ai toujours mes fidèles patientes.
Que tu as eues au début et qui sont toujours maintenant.
Que j'ai eues au début, oui.
Ah, c'est trop
bien. Et nous avons vieilli ensemble.
Tu as du coup des problématiques différentes.
Complètement. Oui, tout à fait. Je les ai accompagnées dans toutes les phases de leur vie. Et ce qui me permet maintenant de discuter des enfants que j'ai mis au monde et que devient... C'est un parcours d'exception, je trouve, pour moi, dans la médecine. Si on peut faire de la médecine sans avoir de patients, si on est dans... un laboratoire, oui, en biologie, en anapathe, et on peut être au contraire très impliqué dans la vie, comme dans le métier que je fais.
Mais ouais, c'est trop bien parce que c'est vraiment un métier passion, et c'est vrai que bah, pour les gens qui ne sont pas du tout dans ce monde-là, on peut avoir bah, peur, on peut... On se dit forcément, c'est des trucs scientifiques, c'est le corps, oui, c'est oui, des... on ne comprend rien aux médicaments, aux même aux mots, etc. Et du coup, bah, je trouve que c'est hyper rassurant d'avoir quelqu'un en face de toi qui est vraiment passionné et qui te...
Je pense que c'est important.
Ouais. C'est important, qui t'explique bien, qui te donne vraiment confiance, qui, comme on disait au début, quoi. Et c'est vraiment un métier passion, en fait, pour toi, vu comment tu
le dédiais. Je pense, pour moi, ouais. Je me dis qu'on n'est pas des robots. Donc, voilà, chaque être humain est un être humain. Moi, j'en suis un aussi. Et voilà, je donne ce que je peux donner. Je suis un guide, presque. Mm. Et après, je vais conseiller à un moment... Enfin, on ne va pas imposer, mais on va dire, ben non, là, c'est... en tant que professionnel, il faut faire ça. Enfin, vous voyez, oui, convaincre, enfin, voilà. Et accompagner, accompagner, expliquer.
Et elle me disait à quel point il y avait des fois où il y avait des femmes qui venaient la voir vraiment désespérées en disant, bah, on m'a dit que j'arriverais jamais à avoir d'enfants, et elle le prenait tellement à cœur. Et elle s'est vraiment battue bah, pour ces femmes-là qui aujourd'hui ont des enfants. Et enfin, c'est à quel point pour elle c'est sa passion. Ouais, elle vit pour ça.
Et après, tu as voulu aller encore plus loin dans ton engagement envers les femmes. Et alors, si je dis pas bêtise, tu as voulu rendre gratuites les opérations de reconstruction mammaire.
Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est que, oui, c'est que de par ma chirurgie. Alors, après, j'ai aussi arrêté la PMA à un moment.
Ok.
Parce que d'abord, je.
Bah oui, du coup, Romane est là, donc tu as dû ralentir le rythme à un moment.
C'est pas, puisque à chaque fois, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui me remplaçait dans cette activité, quelqu'un de très bien. Donc, voilà. Donc, après, j'ai beaucoup développé la chirurgie, et là, du coup, j'ai accompagné beaucoup de femmes, malheureusement, aussi atteintes de cancer. Et c'est vrai que quand je me suis installée, eh bien en fait, c'était beaucoup des femmes de plus de 50 ans. Et vous voyez, 10 ans après, je trouve que maintenant, on a des femmes de 40 ans. Et puis 10 ans après, hein, eh bien, on a même des femmes en dessous de 40 ans qui ont des cancers. Donc là, moi, ça m'a quand même beaucoup interpellée. Donc je les accompagne en les traitant de leur cancer sur le plan chirurgical. Mais ça ne suffit pas, en fait, hein, de les soigner physiquement. Il faut les accompagner. Et les femmes, elles ont des traitements. Du coup, de chimiothérapie, ce qu'on appelle de l'hormonothérapie, c'est-à-dire qui vous bloque vos hormones. Donc, ce sont des femmes qui ont peut-être 35 ou 40 ans et qui n'ont plus du tout d'hormones,
okay,
à cause des traitements pour les empêcher de faire une récidive de cancer, ce qu'on appelle une hormonothérapie. Mais tout ça, c'est
bien. Et quand on n'a plus d'hormones, du coup, ça fait quoi ?
Eh bien, on est comme si on était ménopausée, on se sent moins bien dans sa peau, on a des bouffées de chaleur, on a la peau qui se dessèche, qui se flétrit un peu plus vite. Et sur le plan purement gynécologique, en fait, on commence à avoir des troubles de sécheresse. Du coup, ça donne des difficultés au moment des rapports. Alors, on prescrit des crèmes, des ovules, des lubrifiants. Enfin, voilà quoi. Enfin, 40 ans, si à chaque rapport avec son conjoint, il faut se mettre un... Bouge pas, je vais mettre un gel, bah, machin. Enfin,
parce qu'après, quand ils ont plus, voilà, quand on leur enlève les hormones, c'est à vie après ?
Quasiment.
Ouais, ok.
Donc, c'est terrible. Alors, c'est souvent une dizaine d'années. Donc, une femme de 40 ans, bah, qui a encore ses règles avec les traitements, elle n'en aura plus. Elle va arriver au bout de 10 ans, elle aura 50 ans, ce qui est l'âge de ménopause. Donc,
ah oui, bah oui.
Et donc moi, pourquoi je me bats actuellement aussi, c'est parce que j'ai eu un électrochoc de la part d'une de mes patientes qui un jour est venue me voir et elle m'a dit, mais regardez, voilà, j'ai été opérée du sein, on m'a retiré un sein, j'ai pas voulu de reconstruction. Donc j'ai un sein en moins, donc maintenant moi, ces t-shirts, enfin, j'arrive pas trop à me regarder dans une glace, je veux surtout pas non plus que mon conjoint me touche, etc. Donc c'est voilà, t-shirt. Et puis elle me dit, bah, maintenant on me donne des médicaments pour pas avoir de récidive de mon cancer. Mais là, maintenant, moi, j'ai tellement mal au moment des rapports, je ne peux plus avoir de rapport avec mon mari. Donc, vous voyez bien qu'à 40 ans, mon mari, à mon âge, à un moment, ce n'est pas possible. D'abord, il va sûrement me tromper, peut-être même partir. Et je vais me retrouver seule avec des enfants en bas âge. Et puis moi, elle m'a dit, ce qui était un choc pour moi, elle m'a dit, mais est-ce que je suis encore une femme ? J'ai plus de sein et je ne peux plus avoir de rapport et j'ai plus de sexualité pour toute ma vie. Ce qui veut dire que je ne rencontrerai plus jamais quelqu'un, parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un si son mari part. Et elle me dit, et tout ça parce que j'ai eu un cancer. Elle me dit, et là, moi, je lui dis, mais non, attends, c'est pas possible. Hein. Il faut qu'on fasse quelque chose.
C'est une claque. Voilà.
Ah oui, ouais. Moi, ça m'a été vraiment un choc. En plus, c'est une personne que j'accompagnais, que je suivais, que j'aimais bien. Enfin, ça n'a rien à voir, mais vous voyez, oui, j'étais impliquée quand même avec elle. Et donc là, j'ai vu qu'on pouvait faire pas mal de choses aux États-Unis, au Canada. Donc j'ai la chance de connaître un gynécologue à New York. Donc on a été voir, j'ai pu en discuter avec lui. Et puis dès que ces techniques innovantes sont arrivées en France, eh bien, j'ai commencé tout de suite dans ces nouvelles techniques et qui ne sont malheureusement pas prises en charge par la Sécurité sociale. D'où maintenant mon combat pour que ces femmes puissent être traitées correctement. Voilà, et que toutes les femmes puissent être traitées. Voilà.
Donc là, c'est ça que tu fais actuellement. C'est... Ouais. Donc tu continues ce que tu faisais avant.
Je continue d'opérer toutes mes patientes, je continue de les suivre. Et là, j'ai un nouveau combat maintenant, qui est le combat de ces traitements. Alors ces traitements, on est peu à les utiliser en France, hein, c'est très innovant. Donc mon travail actuel est d'informer les professionnels de santé, de les former. Du coup, maintenant, je forme beaucoup dans mon cabinet ou dans des ateliers pratiques où je forme. Informer les patientes et puis me battre sur le plan politique pour obtenir le remboursement, ce qui m'a valu de découvrir l'Assemblée nationale avec une députée, Audrey Dufeu, qui a fini par obtenir que ce soit pris en charge. Une fois qu'on passe à l'Assemblée, on passe au Sénat. Au Sénat, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin cancérologue au Sénat qui a soutenu mon dossier. Et on a dit, dans le cadre des cancers, il faudrait que ce soit pris en charge. Surtout que chez l'homme...
Chez l'homme, c'est
pris en charge. Il a eu un cancer de la prostate quand il ne peut plus avoir d'érection. En fait, les injections pour récupérer une érection sont remboursées si c'est dans le cadre d'un cancer. Ouais, et les femmes qui, elles, ne peuvent plus avoir de rapport à cause des traitements pour leur cancer du sein ou leur radiothérapie sur le ventre, on ne leur prend pas en charge leur traitement. Donc, celles qui peuvent payer le font, puis celles qui ne peuvent pas payer, elles n'ont pas. Donc, c'est quand même pas possible. Donc, on a obtenu le vote à l'unanimité. Et là, c'était le ministre François Braun qui m'a convoqué au mois de juin 2023 et qui m'a dit « on va étudier ça au sein du ministère de la Santé et vous aurez un retour fin 2023 ». Et sauf que mois de juillet, il a quitté le gouvernement. Après, on a eu monsieur le ministre Augustin Rousseau, mais qui a démissionné début décembre. Après, on a eu un ministre de la Santé intérimaire. Et puis là, voilà. Donc là, on a eu madame Vautrin. Et puis le ministre délégué de la Santé à qui j'ai écrit en demandant où en était mon dossier. Parce que je n'ai
Oui, ça s'est perdu dans tous les changements. On espère qu'ils vont le voir et qu'effectivement, si c'est quelque chose qui est remboursé pour les hommes, pourquoi ce ne serait pas pour les femmes? C'est juste logique, quoi. Donc,
Mais bon, j'ai quand même été un peu soutenue par quelques médias aussi. Top Santé, Figaro, Elle, enfin voilà. Donc pour essayer de faire parler. Mais bon, pour le moment, ça ne bouge pas.
Et pour l'anecdote de comment on a su qu'elle était invitée à parler devant tous les politiques, je m'en rappellerai toujours, on était en voiture et c'était moi qui conduisais. Et elle regarde son téléphone et d'un coup, elle se met à hurler dans la voiture. Alors moi, j'ai pilé parce que j'ai cru que j'avais fait une grosse bêtise, qu'on allait avoir un accident. Et en fait, je la regarde en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit « Je vais aller parler,
au Sénat.
Oui, je vais au Sénat, on va y arriver. » Moi, je comprenais pas, j'étais là « Ok, mais... » Donc tout va bien. Elle me dit « Oui, c'est... » Et je l'ai vue et... Enfin, elle avait les yeux qui brillaient d'une manière, et on revient au fait que c'est vraiment un métier passion. C'est que la voir tellement heureuse de se dire ça va enfin avancer, je vais les aider. Et j'étais là, waouh.
Ouais, j'aimerais bien pour toutes ces femmes.
On espère. Voilà. Et toi, Romane, justement, ça te fait quoi d'avoir une maman qui est aussi dévouée dans son travail et dans la cause des femmes tous les jours?
Petite, c'était compliqué parce que forcément, quand on est petit, on ne comprend pas beaucoup. Et moi, j'avais une maman quand même qui travaillait beaucoup et un papa aussi dans le monde médical, donc qui travaillait également beaucoup. Mais c'est vrai que j'en ai jamais souffert parce que dès qu'elle avait des moments, ils étaient vraiment consacrés à nous, à la famille, à passer, à être présente, à créer la relation qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que pareil, ce qui m'a rendue aussi autonome assez vite, petite, quand j'ai grandi, je me suis dit... Je comprends pourquoi elle y a passé autant de temps. Puis même maintenant que je suis adulte, que je suis une femme, que j'ai connu aussi les premiers rendez-vous gynéco.
Les problématiques.
Même moi, j'avais très très peur, alors que ma maman est quand même gynéco.
Okay.
Vraiment, c'est un truc que je voulais même pas en parler. Enfin, j'avais très peur. Et le fait de la voir, de autant se donner le soir, je la voyais, elle travaillait encore à la maison, elle écrivait ses articles, elle préparait ses topos pour aller en réunion ou pour aller... raconter ce qu'elle faisait dans des grosses réunions et tout ça avec beaucoup de médecins et c'est là où je me suis dit mais waouh, c'est ma maman, alors que pour moi c'est ma maman, elle est normale, et je me dis pour tant de femmes elle a un rôle tellement important dans leur vie que ça peut être qu'une fierté pour moi d'être sa fille, et j'espère vraiment plus tard avoir un métier, pas dans le domaine médical mais au moins un métier qui me fait autant vibrer que son métier, parce qu'elle fait que de se réinventer, comme elle l'a dit.
C'est vrai que tu fais plein de trucs différents.
Ouais. Oui, j'aime bien les choses innovantes et puis y aller à fond.
puis
aboutir à ce que je souhaite. Puis et ce qui me paraît complètement normal, ce que je demande en plus.
Ça inculque des valeurs aussi qu'elle m'a données, enfin qui est... Même c'est une fierté, dès qu'elle apparaît dans un nouveau magazine, elle nous l'envoie sur le groupe WhatsApp de la famille. Enfin, c'est,
oui, il faut que ça avance.
Elle me dit, Romane, va acheter mon magazine, regarde. Enfin, c'est quelque chose où je pense qu'on la soutient tous et on est tous très très fiers d'elle. Mais ouais, c'est assez incroyable.
Merci.
Trop chouette. Et pourquoi justement tu penses que c'est le combat pour lequel tu te bats pour que ça soit remboursé, etc. pour les femmes, pourquoi ça avance pas? Est-ce que c'est parce qu'on connaissait pas les techniques et du coup ça arrivait plus tard et du coup forcément en France ça met 10 000 ans à faire
Je pense que c'est ça.
C'est ça.
Il y a une... Mais même déjà de la part des professionnels de santé, que là ça fait quand même depuis 2016-2017 que ces techniques sont arrivées. Il y en a très peu qui développent. Hein. C'est quand même... Dommage,
bah ouais.
Quoi, quand même. Hein.
Ouais. S'il y a des solutions, il faut les exploiter.
Oui, et puis même en cancérologie, ils commencent à le savoir. Puis je le dis dans mes conférences, c'est que parfois, certaines femmes arrêtent leur traitement parce que, sans le dire à leur cancérologue.
Ah ouais.
Mais oui, au bout de 2 ans, elles disent, mais non, c'est pas possible. Moi, je veux pas perdre mon mari, ma famille, mon équilibre. Et donc, des fois, à moi, elles me le disent, puisqu'on est complices. Elles me disent, vous savez, j'ai arrêté. Moi, je peux pas, parce que là qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Enfin... Et je me dis, mais pourquoi nous, les femmes, il faut qu'on... Enfin, c'est insupportable.
Ouais.
Et donc ça, je me dis, non, il faut que j'y aille pour elle, quoi. Enfin, c'est... Enfin, je sais pas, je...
Bah non, mais c'est logique.
Je sais pas comment le dire, c'est pour moi, c'est tellement...
En fait, c'est de la logique.
C'est de la logique, ce que je demande, c'est... Enfin,
oui,
c'est normal,
ça,
quoi.
Même... Enfin, c'est même pas censé être quelque chose que tu demandes, quoi.
On devrait même pas besoin de se battre, en fait.
Oui, c'est ça. S'il y en a un pour l'un, pourquoi il n'y aurait pas pour l'autre, quoi. Et c'est surtout que, bah, il n'y a pas... qu'une seule femme qui souffre de ça, c'est énormément de personnes. Justement,
même.
Si on laisse le tabou là-dessus et que du coup, bah, chacun n'en parle pas trop et arrête ses traitements ou se sent seul ou se sent reclus ou quoi, bah, ça va faire un peu l'effet inverse aussi. Donc, tout à fait.
Ouais, t'as tout à fait raison.
Non, mais j'espère vraiment que ça va changer. Voilà, on sait jamais qui écoute ce podcast, mais...
Moi, je demanderais que ça.
C'est
pas pour moi, c'est pour toutes mes patientes. Je serais tellement heureuse pour elles, quoi. Je sais qu'on leur rendrait beaucoup service. Il y a des millions de femmes en France. Quoi.
Bah oui, c'est vrai qu'on a... Tant que c'est pas arrivé à quelqu'un de notre entourage, on se sent pas forcément concerné, mais bon, je sais plus exactement c'est quoi les chiffres, mais il y a énormément de femmes
atteintes
de plus en plus qui ont des cancers, quoi. Donc c'est vraiment une problématique qui est importante et qu'il faut vraiment prendre.
On peut pas faire comme si ça n'existait pas, ce problème-là. Et je pense que même c'est bien de guérir d'un cancer, parce que quand même maintenant, heureusement, on guérit des cancers. Mais si on perd sa qualité de vie, si on perd cette image de soi d'être une femme. Mais je me dis, mais non, on n'a pas réussi. On l'a guéri d'un cancer, mais on l'a cassé en tant que femme. Et ça, c'est pas normal. On casse, il faut réparer derrière. Parce que ce sont nos traitements qui les rendent comme ça.
Donc,
il faut réparer, tout simplement.
C'est vrai. Et bah, écoute, on espère tous que les choses vont changer. Et les filles, j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes filles qui écoutent ce podcast? Parce que la plupart de mes auditeurs, auditrices, ont entre 18 et 25 ans, voilà, aux jeunes filles qui écoutent ça, qui découvrent un peu le monde de la femme, à qui peut-être ça fait peur, ou alors juste qui s'en fichent complètement, ou qui ont besoin de conseils, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
Bah moi, d'un point de vue non médical, du coup, plus, c'est vraiment de pas avoir peur, ou en tout cas, si elles ont peur, c'est normal, et vraiment c'est ok de vouloir changer, par exemple, de praticien. Moi, je l'ai vu avec des copines ou même ma maman en parlait. Mais ça arrive que des fois, y a des gens avec qui ça ne matche pas. Mais juste parce que on est tous humains, on a tous des caractères différents. Et je pense que c'est OK de ne pas s'entendre avec un praticien. Mais je pense qu'il faut changer parce que, comme maman l'a dit, la confiance, c'est important. Et sans confiance, on n'avance pas. Et je pense que faut savoir que tout n'est pas obligatoire. Si on n'a pas envie de certaines choses... c'est ok, ça peut juste être une discussion avec un praticien et que il faut pas trop se mettre la pression même en tant que femme par rapport à ça, parce que moi j'ai remarqué souvent on dit aux jeunes filles entre 18 et 20 ans, quoi, t'as jamais été chez la gynéco, il faut que t'y ailles. Non, c'est ok de prendre son temps en fait finalement et de s'attendre soi-même et d'être prête,
de pas y aller sous la pression, quoi.
Ouais, voilà, exactement.
mais de pas non plus repousser ça et avoir peur et en faire tout un énorme monstre.
Et puis je pense que c'est bien aussi d'y aller quand on se sent prête, en effet, mais si possible de pas y aller dans un moment de catastrophe, quoi, de découvrir une personne alors qu'on est obligé d'y aller parce qu'on est dans un problème, une situation, je sais pas laquelle, mais c'est vrai, quand on peut y aller pour poser quelques questions et commencer à se connaître, parce que ce que dit Romane, c'est vrai, je pense qu'une relation de confiance, hein, on peut très bien s'entendre avec un praticien, pas avec un autre, donc il faut changer. Puis après, une fois qu'on a établi une vraie relation de confiance, ben, rester avec cette personne, voilà. L'énorme avantage, nous, en tant que professionnels en gynécologie, c'est que par rapport au réseau, on va parler pour la personne qui est devant nous. Mmh. Hein, et alors que quand on va soi-même dans les réseaux, je vois par exemple en ce moment avec le papillomavirus, hein, quand on a un papillomavirus sur les frottis, eh ben la première chose que vont faire les patientes, c'est tac, 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 ouais, sur Internet. Ligne. Donc elles viennent, elles me disent, ça y est, j'ai lu, vu ce que j'ai lu, j'ai un cancer du col de l'utérus. Mais non, pas du tout. Enfin, il n'y a rien là. Enfin, vous voyez, donc sur les réseaux, sur le net, tout ça, c'est bien, mais on ne sait pas ce qui est pour nous.
Oui.
Et c'est vrai qu'un interlocuteur, un professionnel de la santé, hein, ça peut être un médecin généraliste. Il y a beaucoup de femmes médecins généralistes aussi qui font de la gynécologie. Il y a les sages-femmes maintenant qui font aussi des consultations de gynécologie, qui sont très proches des jeunes. Et nous, on est là justement pour leur dire non. Pour vous, voilà ce que c'est, voilà ce qui est écrit, ça ne correspond pas du tout à ça, vous inquiétez pas. Ou au contraire, il faut prendre ça très au sérieux. Vous savez, le tabac, papillomavirus, c'est pas une bonne entente, donc essayez de faire ci. On peut guider, conseiller, donner. Enfin, vous voyez, c'est ça. Donc je pense qu'on a vraiment un rôle, ce qu'on disait tout à l'heure, de guide tout au long de la vie, et il faut vraiment pas hésiter à trouver le ou la gynécologue avec qui on se sent bien et avec qui on a envie d'échanger.
Et il y a aussi, moi je m'en souviens quand j'étais au lycée, on parlait souvent aussi du planning familial et il y a plein de, si c'est vraiment le monde médical qui vous fait peur, pour commencer à déjà vous renseigner, je sais qu'il y a aussi plein d'associations, il y a des, justement le planning familial, il y a plein de choses pour juste prendre ça de la bonne manière. Oui. Et comme tu dis, ne pas arriver quand c'est la catastrophe et que là, ça fait peur. Effectivement, la première expérience n'est pas forcément
hyper bien. Oui, puis on choisit la première personne disponible. Ce n'est pas forcément celle qui vous correspond. Et puis, il faut bien savoir qu'on est là pour aider et non pas pour juger, quelle que soit la situation. Comme je vous disais tout à l'heure, d'une patiente à l'autre, c'est deux problèmes qui sont complètement opposés, quoi. Mais on est là pour chaque personne. Et il y a même les consultations gratuites, même dans une clinique privée. Enfin, une jeune qui ne peut pas payer, enfin, on va quand même l'accepter et l'aider quand même. Enfin, le planning familial, tout est gratuit aussi. Et on est toujours accueilli. Donc, il faut savoir. Il y a
plein de solutions. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Alessie, d'être venue sur le podcast. Ça m'a fait très plaisir et je pense que ça va beaucoup aider, j'espère, en tout cas, des jeunes filles qui nous écoutent. Et voilà, qui avait besoin d'entendre ça, envie, et juste aussi en apprendre plus sur le parcours de la femme en globalité dans la société, quoi. Donc, c'était hyper intéressant.
Merci à toi, Zoé, surtout. Merci.
Avec plaisir. À vous qui nous écoutez, je vous dis rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.